Commencer notre étude. Alors bon, moi je ne suis pas, comme je disais, je ne sais pas me servir de la vidéo, alors je suis toujours à la vieille école, c'est sur papier. Donc je vais vous distribuer, c'est un peu le plan de ce que nous allons voir ce soir. Il n'y a rien de compliqué dans ces feuilles. Et on va essayer de suivre un peu ce plan. Je ne sais pas s'il va y en avoir même assez. J'en ai fait une trentaine, mais bon, ça va être peut-être juste peut-être faire un peu deux. Éventuellement. Oui, il y en a, alors bon, s'il y en a assez, ça va. Alors, donc nous continuons notre étude sur le livre de 1 Corinthiens, et Josias nous a très bien introduit justement dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, et donc nous avons vu le chapitre 1, le chapitre 2, donc ce soir nous allons voir le chapitre 3. La lettre de Paul aux Corinthiens était de traiter la sagesse humaine par rapport à la sagesse de Dieu. Et c'est vrai que dans cette église, on peut s'apercevoir dès les premiers chapitres qu'il y avait beaucoup de divisions, il y avait beaucoup de jalousie dans cette église. Le thème général de l'épître est celui de comment corriger et redresser une église qui s'appuyait sur leur propre sagesse. Et l'apôtre Paul va donner pas mal d'explications parce que ce qu'il voyait, bon, l'alarmait et l'attristait, et donc il va enseigner les Corinthiens. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette épître de 1 Corinthiens, on va voir que Paul va traiter plusieurs sujets. Il va traiter le sujet sur le mariage, il va traiter le sujet sur le célibat, il va traiter le sujet aussi sur la Sainte-Seine, sur l'amour, dans le chapitre 13, on le verra. Il va traiter plusieurs points, et il va traiter aussi sur les dons, sur les dons spirituels et leur utilisation aussi, ça nous le verrons dans le chapitre 12 et le chapitre 14. Et il va traiter aussi sur la résurrection. Et donc, pour revenir sur les dons, eh bien, certains estimaient qu'ils pouvaient exercer ces dons extraordinaires avec la même puissance que les apôtres avaient. Tout ça, ça va être traité au fur et à mesure que nous allons avancer, nous le verrons. L'apôtre Paul rappelle qu'il avait la charge de prêcher l'évangile et d'amener le croyant à la foi, d'amener le croyant à l'unité en Jésus-Christ, à reconnaître que tout vient de Dieu. Et il va parler aussi, on va voir l'humilité que les apôtres avaient, il va aussi, on va voir la relation que nous devons avoir entre les uns et les autres, que ce soit quand nous sommes en famille, que ce soit quand nous sommes ensemble, que ce soit dans l'église, l'importance de l'humilité. Alors je vous propose ce soir, nous allons lire par morceaux. On va pas lire tout d'un coup le chapitre 3, mais on va lire trois points. Le premier point que nous allons voir, c'est dans le chapitre 3, versets de 1 à 9 que nous allons lire. Ça va être le rôle d'un serviteur. Quel est le rôle d'un serviteur? Ensuite, dans le verset 10 et 17 que nous lirons, nous allons voir qu'il n'y a pas d'autre fondement que celui de Jésus-Christ. Et pour finir, on finira par lire les versets 16 à 23. Et là, nous allons voir que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, je vous propose de commencer à lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 9. Alors, c'est vrai que Josias l'avait déjà annoncé la dernière fois, que c'est peut-être mieux que ce soit une personne qui le lise à haute voix et qu'on puisse bien comprendre. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien lire ce premier verset, chapitre verset 1 à 9?
pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.
Merci. Donc, là on voit que quand Paul a visité la première fois les Corinthiens, eh bien, il les avait nourris du lait de la parole, parce qu'ils étaient encore faibles et jeunes dans la foi. L'enseignement de Paul était à ce moment-là adapté à leurs conditions et ils n'avaient pas été capables d'assimiler les leçons un peu trop spirituelles. Alors, ce n'est pas que l'apôtre Paul ne leur avait pas dit ce qu'il fallait, bien au contraire, hein. Paul leur avait sans doute dit ce qui était l'essentiel. Mais à cause de leur manque de maturité, eh bien, ils n'arrivaient pas à percevoir cette nourriture solide. Et on peut remarquer aussi qu'il est dit dans Jean au chapitre 16, verset 2, 12, c'est le Seigneur qui avait déclaré ça, il avait dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc, on voit qu'au départ, ils avaient reçu l'essentiel, mais ils étaient tellement attrayés à autre chose qu'ils n'ont pu recevoir que l'essentiel, ce que Paul disait, c'était de croire au Seigneur Jésus et prêcher Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils étaient des enfants de Dieu. Hein, l'Église de Corinthe était des enfants de Dieu. Mais, vous savez, l'influence du monde est... On peut s'apercevoir que l'influence du monde peut toucher n'importe quel chrétien, même qui sont nés de nouveau. Eh bien, ont besoin toujours de lutter contre les tendances de la chair. Donc, je voulais marquer sur les feuilles l'homme charnel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'homme charnel? Qu'est-ce que c'est qu'un homme charnel? L'homme charnel, eh bien, c'est celui qui cherche le sens de sa vie dans les investissements païens. Et ici, vous savez, quand Paul emploie le mot, quand il dit « je vous parle comme à des hommes charnels », il ne désigne pas généralement le corps, ni les plaisirs sexuels, hein, mais plutôt sur la vie morale qui n'est pas fondée sur l'Évangile. C'est ça que l'apôtre Paul voulait dire quand il parlait à des hommes charnels, parce qu'ils n'étaient pas vraiment fondés sur la parole. Et je vous invite à lire dans Romains au chapitre 7, verset 17, si quelqu'un, et peut-être un peu jusqu'au verset 19, on peut lire. Romains, chapitre 7, verset 17, si quelqu'un veut le lire.
Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans la chair, et la volonté, le nom de pouvoir, et le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Merci. Alors là, j'ai marqué dans les feuilles que vous avez, attention de ne pas accuser le péché qui habite en nous. Parce que je me suis aperçu que souvent, moi-même, et peut-être en parlant avec d'autres personnes, on entend souvent, oui, mais tu comprends, on est pécheurs. Hein? Dieu sait comment on est. Ça serait presque une excuse. Mais attention, nous sommes responsables de nos actes. Hein? Que nous sommes responsables de nos pensées, de nos choix, responsables de l'orgueil que nous pouvons avoir, des jalousies, des divisions, nous sommes responsables. C'est vrai que nous vivons dans un monde où le péché règne, mais il faut comprendre que chacun est responsable et que nous devons aussi réfléchir que ce n'est pas parce que je suis pécheur que je vais me complaire dans le péché. Hein? Ça, c'est l'homme charnel. Alors, maintenant, l'homme spirituel, qu'est-ce qu'est l'homme spirituel? L'homme spirituel, eh bien sûr, c'est le contraire d'un homme charnel. C'est quelqu'un qui cherche son identité de sa vie exclusivement dans le Seigneur, qui recherche cette relation avec le Seigneur, qui va faire tout ce qui est agréable au Seigneur. Pour lui, le péché, c'est quelque chose qu'il a en horreur. Alors, voilà ce qu'est un homme spirituel, c'est quelqu'un qui cherche sa vie dans le Seigneur crucifié. Je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2 et 5.
2 Corinthiens,
effectivement, merci. 2 Corinthiens chapitre 2, et les versets 2 à 5.
Car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer.
Voilà, nous voyons l'apôtre Paul, vraiment, l'amour qu'il avait envers cette église. L'homme spirituel cherche et fait référence toujours à la personne de Jésus-Christ et non dans sa propre sagesse. L'homme spirituel aussi, il est animé par, et il porte du fruit, le fruit de l'esprit. Et vous connaissez tout ce passage qui est dans Galates au chapitre 5, le verset 22, c'est l'amour, la joie, la patience, etc. Vous pourrez le lire à la maison. Alors, les chrétiens de Corinthe étaient encore charnels parce que on voit, la preuve, c'est qu'il y avait toujours des jalousies et des querelles. Alors, je pense que nous ne les critiquons pas facilement, car parfois, peut-être, entre nous, eh bien, on veut aussi peut-être faire bonne figure, mais il se peut qu'il y a aussi de la jalousie. Peut-être on s'entend moins avec un frère ou une sœur parce qu'il a dit quelque chose. Il peut y avoir des divisions, il peut y avoir des querelles. Il peut y avoir des jalousies. Jalousies peut-être dans le service. Peut-être qu'on peut se dire, oh mais moi je ferai mieux que lui. Moi j'ai plus de connaissances que lui. Pourquoi lui fait ça et pas moi? Parfois on voudrait même prendre la place de la personne qui a un ministère. Je crois que nous devons rester humbles et rester humbles et vraiment voir l'autre personne plus grand que nous, ne pas se sentir supérieur aux autres. Et c'est vrai que dans cette église, il y avait ces divisions-là. Rappelez-vous aussi les disciples de Jésus, à un moment donné, ils se sont posé la question et demandé mais qui serait le plus grand. Et parfois, il peut manquer dans l'Église de l'amour, il peut manquer l'humilité, il peut manquer l'unité, et je crois que être uni dans une famille, c'est quand même quelque chose d'important. Je discute avec des personnes, quand je travaillais beaucoup, quand je disais que moi, dans ma famille, on était une famille unie, et eux, ils me disaient, oh, oh, moi, mon frère, ma soeur, moi, ceci, c'est triste. Et je crois que l'Église doit être unie en Jésus-Christ, parce que nous sommes un seul corps, et Jésus en est la tête. il est le chef. Hein. Alors, c'est vrai que nous avons besoin de rechercher toujours cette humilité, cet amour et cette unité. Parce que autrement, un tel comportement, eh bien, ça montre que nous sommes charnels. Et Paul, au verset 3, du chapitre 3, verset 3, hein, rappelle de ne pas marcher selon l'homme charnel. Paul va rappeler le rôle d'un serviteur. Alors c'est vrai que d'un point de vue, c'est une folie de se réclamer comme maître, comme étant supérieur à une autre personne qui a le ministère. C'est une folie. Nous avons vu dans 1 Corinthiens au chapitre 1, au verset 11 à 13, que certains chrétiens se disaient d'être de Paul, d'autres d'Apollos, et d'autres, ils disaient de Céphas, c'est-à-dire de Pierre. Ces trois serviteurs, étaient des serviteurs de Jésus-Christ. Ils ne se sentaient pas au-dessus de l'un ou de l'autre. Hein. Ils étaient unis. Ils ne se voyaient pas comme des maîtres. Ils étaient des serviteurs, on voit au verset 5, par lequel les chrétiens de Corinthe avaient été amenés à croire au Seigneur Jésus. Eux étaient là tout simplement pour annoncer la bonne nouvelle, mais que c'était Dieu qui fait croître. Tout vient de Dieu. Sans Dieu, les disciples, ils étaient rien. Et je crois que nous devons aussi réaliser que sans Dieu, nous sommes rien. Regardez déjà, l'apôtre Paul, au verset 9, il dit qu'ils sont ouvriers avec Dieu. On voit vraiment leur humilité. Ils ne se sentent pas comme des maîtres. Ils sont humbles, ouvriers avec Dieu. Eh bien nous, je pense que nous devons réaliser aussi que nous sommes serviteurs et que nous sommes ouvriers avec Dieu et que c'est Dieu qui fait croître. Et il n'y a aucun orgueil de notre part. Ce n'est pas nous qui convertissons, c'est le Seigneur. Et nous devons lui faire pleinement confiance. C'est important de ne pas se croire au-dessus des autres. Alors c'est vrai que je ne veux pas porter de jugement. Hein. Chacun recevra sa récompense. Mais vous savez, en ce moment sur Internet, alors je ne suis pas fort à Internet, mais j'ai des applications et je vois certaines choses. Certaines personnes se faire passer pour des maîtres. Et Paul pousse les Corinthiens à marcher maintenant, à marcher spirituellement, ils ne se font pas passer pour des maîtres. Je crois que nous devons faire attention. Et les Corinthiens, c'est vrai qu'ils étaient focalisés sur les expériences, sur les dons spirituels, sur ce qu'ils voyaient, sur leur tradition. Et je dis, il faut faire attention. Parce que ça peut fonctionner comme des idoles quand on s'appuie sur autre chose que sur l'Évangile. C'est vrai que ça peut être fait par de bonnes intentions, mais ça peut aussi saper petit à petit la vie spirituelle. Nous devons être vigilants dans ce que nous voyons, dans ce que nous entendons. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles choses qui se passent que nous devons rester vigilants à ce que la parole de Dieu nous dit. Et je crois que l'apôtre Paul voulait avertir les Corinthiens de ne pas se laisser persuader par autre chose que le Seigneur. Et pour nous, je pense que c'est important aussi de regarder simplement, rien qu'au Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup manque d'humilité. Aujourd'hui, c'est ce que je m'aperçois, c'est à celui qui fait le plus de choses. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une compétition. Compétition à celui qui va faire le plus de miracles. Mais je pense que nous reviendrons sur ce sujet plus tard dans les chapitres plus loin, en l'occurrence au chapitre 12 et 14. C'est vrai qu'on peut prêcher l'évangile et d'autres vont prier, mais n'oublions jamais que c'est Dieu seul qui accomplit l'œuvre du salut. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et c'est sur lui que nous devons nous reposer. Chacun doit se contenter d'accomplir sa tâche dans l'humilité, dans l'intégrité, dans la justice. Et j'aime beaucoup ce passage qui est dans Michée au chapitre 6, verset 8, je crois, où il est dit que ce que je demande de toi, enfin, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est que tu marches humblement, dans l'intégrité, dans la justice de Dieu. De ne pas être, en fin de compte, de ne pas avoir cette duplicité. Nous ne pouvons pas servir de maître. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir dans ce livre, en fait, ce que moi je m'aperçois, c'est que l'apôtre Paul aime ses frères et il veut les enseigner. Il veut les enseigner par rapport à ce que lui, il a reçu de la part du Seigneur. N'oublions pas que dans tous les épîtres qu'on voit, hein, l'apôtre Paul choisit par Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul voulait enseigner l'église de Corinthe, mais aujourd'hui, cette parole, elle est toujours d'actualité. Elle veut encore instruire les églises, l'église de Jésus-Christ. Et nous devons nous baser justement sur cette parole qui est la vérité, et pas nous laisser distraire par tout ce que nous pouvons voir. Chacun raconte. Alors, pourquoi il y a des jalousies ou des rivalités entre serviteurs ou entre ministères dans l'Église, dans l'Église? Regardez le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon leur propre travail. Ils sont égaux dans le sens où chacun poursuit le même objectif. Et il devrait être animé d'aucune jalousie. Y a-t-il de la jalousie entre nous? Y a-t-il des divisions? Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de faire connaître la parole de Dieu et de prêcher Jésus-Christ qui est mort sur la croix et ressuscité. C'est ça, hein, ce que nous devons apporter. Apporter cette bonne nouvelle. Et on ne doit pas être animé d'aucune jalousie. C'est devant Dieu que nous sommes responsables. Entre nous, nous sommes que des ouvriers et des compagnons d'œuvre, travaillant de concert à cultiver et à ensemencer le champ de Dieu qu'il nous a confié. Et vous savez que dès la Genèse, quand Dieu a créé le ciel, la terre et tout, il a créé Adam et il lui a confié le jardin d'Éden, afin que Adam puisse le cultiver, puisse l'ensemencer. Eh bien aujourd'hui, nous aussi, nous avons un autre champ. Et le champ que nous avons, c'est de cultiver, c'est de semer, c'est d'arroser. Et c'est Dieu qui fera croître. Et c'est notre mission. Allez partout, dans le monde entier, et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apportez ce qui nous donne le salut, c'est-à-dire Jésus-Christ, et pas autre chose. Sans que le diable, bien sûr, Dieu vient nous tatiller, parce qu'il connaît nos faiblesses. Il sait, tiens, peut-être qu'il y a un frère ou une sœur, oh, celui-là, je sais pas, sa façon de parler, ça m'agace. Il sait nous mettre là où ça va nous permettre de critiquer. C'est l'œuvre du diable. Le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Hein? Est-ce que nous nous aimons? Hein? Est-ce que vraiment nous savons que nous sommes frères, sœurs, et que notre Père, c'est notre Dieu? Vous savez, je crois que l'amour, on le verra dans le chapitre 1, après, l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Et c'est ce que nous devons avoir, ces sentiments entre frères et sœurs. Nous aimer les uns les autres, avoir cette unité. Voilà, voilà un peu pour la première... voilà le rôle d'un serviteur. Voilà, nous sommes serviteurs. C'est notre rôle de vraiment prêcher l'Évangile et d'être humble dans tout ce que nous faisons. Alors, je vous propose maintenant de lire, continuer, de lire, je vois que là quand même ça passe vite, hein, de lire les versets 10 à 17. Là aussi, si quelqu'un veut lire les versets 10 à 17.
Vas-y, toi, je tiens. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes.
Voilà. Voilà l'apôtre Paul qui s'adresse toujours bien sûr aux Corinthiens et qui dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Paul dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Sa prédication, c'était Jésus-Christ ressuscité. Et les âmes furent sauvées. L'Église grandissait à travers ce fondement que Paul a porté, Jésus-Christ. Et il rajoute un autre bâti dessus. Alors j'étais interpellé par ce mot, un autre bâti dessus. Je crois qu'il fait sans doute allusion à d'autres personnes qui enseignaient. Et encore au verset 10, il rajoute que chacun prenne garde de la façon dont il bâtit. Wow. Que chacun prenne garde à la façon qu'il bâtit. Ce passage s'adresse, bien sûr, aux responsables, s'adresse aussi à chacun de nous. Attention, comment je bâtis? À ceux qui ont un ministère dans l'église locale, cette responsabilité de bâtir comme un sage architecte. Certains enseignants, étaient venus à Corinthe avec des doctrines susceptibles justement de diviser et d'apporter autre chose que Jésus-Christ. Et tout en se servant du nom de Jésus. Parce qu'on peut, parce qu'on peut se servir du nom de Jésus et faire le contraire de la volonté du Seigneur. Hein? On le voit. Au nom de Jésus, on fait beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est réellement au nom de Jésus? Nous devons y veiller. Mais ça me fait penser que, oui, en se servant du nom de Jésus, mais attention, parce qu'il nous est dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ces démons aussi, Nous devons y veiller. J'étais artisan. Et j'étais, enfin pas dans la maçonnerie, enfin il y a des maçons ici, ils savent très bien que si ils ont un plan que l'architecte a fait, et s'il ne bâtit pas sur des fondations, eh bien, la maison risque de ne pas tenir. Moi j'étais aussi artisan dans le plâtre, quand j'avais le plan que l'architecte me donnait, eh bien il y avait les cloisons, mais il fallait que je mette les cloisons exactement où l'architecte avait tracé. Parce qu'autrement, si je le mettais à côté, mais la salle de bain, peut-être, au lieu de faire 4 mètres carrés, elle n'en faisait plus que 3. Donc, il fallait y veiller. Et je crois que l'apôtre Paul, quand il dit que qu'il a posé ce fondement comme un bon architecte, c'est parce qu'il a suivi. Il a suivi exactement ce que le Seigneur lui donnait à cœur de dire. Il n'a pas dévié. Il est resté fidèle à l'enseignement et à ce que le Seigneur lui donnait. De dire. Et je crois que là aussi, nous devons aussi nous faire attention dans nos paroles, dans tout ce que nous faisons, que ça soit vraiment selon la volonté de Dieu et pas de vouloir faire à côté de ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons y veiller. Alors je pense que là, Paul, ici, devait viser certaines personnes particulières. Car les faux docteurs, c'est vrai que déjà à cette époque, elles existaient. Et aujourd'hui, malheureusement, ça se multiplie, ça s'est multiplié au cours des années, les faux docteurs. Aujourd'hui, nous devons faire attention comment nous bâtissons. La vie chrétienne se développe sur le chemin de la vérité. Ta parole est la vérité, nous dit la Bible. Et quand Paul dit qu'un autre bâtit dessus, il veut dire par là que d'autres posent un autre fondement et exercent sur d'autres personnes une certaine influence qui ne vient pas du Seigneur, cherchant peut-être leur propre intérêt. Ils se trompent par de beaux discours. Ils font de beaux discours, ils exagèrent, c'est par demi-vérité, ils nous trouvent par la flatterie, par un double langage, par la simulation, par la séduction. Et je vous propose de lire à ce propos Matthieu, chapitre 24. Voilà ce qu'il nous est dit. Matthieu, chapitre 24, versets 23 à 26. Verset 23. À 26. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas, etc., etc. Oui, on peut avoir de très beaux discours, mais Dieu nous a avertis, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres. Et à l'heure actuelle, on entend beaucoup... Ouais, un tel apôtre. Je pense que là, ça n'a pas la même signification que les apôtres du temps de Jésus aux apôtres d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire, mais sans aucun jugement, je ne juge personne. Mais je crois que nous devons faire attention. En tant que chrétiens, nous devons examiner toutes choses et être attentifs à ce qu'on nous dit, même... à ce que nous voyons. La Bible dit, ne vous trompez pas vous-même. Nous devons être comme les chrétiens de Béret, Qu'est-ce qu'ils faisaient quand l'apôtre Paul parlait? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient examiner sur la parole pour voir ce que l'apôtre Paul disait, si c'était vrai. Oh, combien de fois nous devrions être des chrétiens de Béret aussi, d'être attentifs à ce que dit la parole. Paul, oui, a établi un seul fondement. Un édifice a besoin d'une seule fondation. Et Paul s'adresse à la fois, ici, aux prédicateurs, aux personnes qui ont été responsables. Mais il semble qu'il s'adresse aussi à tous ceux qui écoutent les prédications. Le problème qu'il y avait chez les Corinthiens, c'est que sur ce fondement solide, eh bien, ils ont bâti, ou ils ont laissé bâtir un édifice de moindre qualité. Galates chapitre 3, verset 1. Alors, je ne l'ai pas marqué sur les feuilles, je vous avoue, c'est que après coup, je revoyais un peu, mais Galates chapitre 3, verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 3.
Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair?
Oui, être dépourvu de sens. Ce n'est pas qu'il manquait d'intelligence, mais je pense qu'il manquait plutôt d'obéissance. Dans Jacques au chapitre 1, il nous encourage à être parfait et accompli. Être dépourvu de sens, c'est être inconstant dans nos vies. Et ce type d'instabilité, de duplicité, est totalement l'opposé à la foi. Être irrésolu, dépourvu de sens, n'a rien à voir avec le fait de croire en Dieu ou de ne pas croire. Le manque de clarté, notre instabilité, être dépourvu de sens, nous amène à de fausses perceptions que nous avons de Dieu. Et cela affecte l'Église de Corinthe. Et parfois, ça peut aussi affecter notre Église, quand nous n'avons pas, quand nous sommes dépourvus de bon sens, quand nous nous laissons accaparer par autre chose que le fondement de Dieu. C'est pour ça que nous devons rester vigilants. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage à veiller et prier. C'est quelque chose d'important de rester en contact tout le temps avec le Seigneur. Parce qu'il est si facile dans ce monde de partir à droite ou à gauche, de se laisser séduire, de voir des choses extraordinaires, même de voir des miracles. Nous savons que les magiciens du Pharaon ont fait le miracle aussi quand Moïse a présenté son bâton qui a été transformé en serpent. Il y a eu des magiciens aussi qui ont fait de même. Et je pense que vers la fin des temps, on verra des miracles, mais pas forcément des miracles qui viennent de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants. Certains, c'est vrai, ont bâti avec des matériaux précieux de l'époque, avec du marbre, c'est ce qui existait à l'époque, du granit ou de l'albâtre. Et d'autres, malheureusement, ont bâti avec du fouet, du bois et du chaume. Ça me fait rappeler, je fais une petite parenthèse là, quand j'avais mes enfants, on chantait justement ce cantique, je ne sais pas si vous connaissez, le sage sur le roc a bâti sa maison. Le vent, la tempête est venue, la maison résista. Le fou sur le sable a bâti sa maison, le vent, la tempête est venue, elle s'écroula. Et je crois que quand on bâtit notre... Sur quoi nous devons bâtir? Si on bâtit sur le roc, Oui, il y aura la tempête. Oui, il y aura le vent. Mais on restera debout. Debout parce que nous nous appuyons sur le roi qui est Jésus-Christ. Et je ferme la parenthèse, je pensais justement à ça. Et c'est vrai qu'on applique généralement ce passage de l'Écriture à la vie chrétienne. Un jour, l'œuvre de chacun se révélera devant le tribunal de Christ. Sur quel fondement je bâtis ma vie? Sur quel fondement vous bâtissez votre vie? Sur l'Évangile ou sur la chair? Sur ce que tu vois? Sur ce que tu fais? Eh bien, cet examen est composé à l'action, est comparé, pardon, à l'action du feu. Le feu éprouvera l'œuvre, tout comme la tempête, hein, l'œuvre de chacun. Tous ceux qui ont bâti leur vie sur Jésus-Christ résistera à l'épreuve du feu. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. L'œuvre, nos œuvres vont être consumées, c'est vrai, et on passera devant le tribunal du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, il n'est pas question de perdre le salut, là. Mais c'est notre récompense que nous risquons de passer à côté. Il n'est pas question, c'est vrai, de perdre le salut. Non. Mais bâtissons notre maison sur le roc. Il n'y a qu'un seul fondement. C'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul appuie là-dessus. Et c'est un encouragement pour nous aussi. Alors, nous allons continuer, nous allons lire les versets 16 à 23. Et s'il nous reste quelques minutes, bien, on pourra peut-être partager si vous avez quelque chose à dire de plus. Alors, comme on le dit, on ne fait que survoler. On ne fait que survoler les chapitres, parce que c'est vrai que si on les prenait chapitre par verset par verset, on finirait peut-être pas à l'heure, mais nous faisons que survoler. Alors lisons maintenant, toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 3, les versets 16 à 23.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tout ce que vous êtes, que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Et Christ est à vous.
La sagesse de ce monde, folie devant Dieu, et que personne ne donne gloire à l'homme. Et je vous avoue que j'aime beaucoup ce dernier verset, verset 23. Hein? Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à vous, tout est à nous. Cela veut dire que, en fin de compte, j'ai tout en Jésus-Christ et je ne me laisserai donc je ne me laisserai pas séduire par aucun discours sauf ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Je ne me laisserai pas séduire par aucun discours ou vision, m'emprisonner. Je resterai ouvert, c'est vrai, aux discours qui vont fortifier cette certitude. Certitude qu'en Jésus-Christ, nous avons tout, oui. Mais je ne me laisserai pas, et d'ailleurs je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit « je ne me laisserai pas à servir de quoi que ce soit ». Nous sommes le temple de Dieu. Et Paul rappelle que les chrétiens sont le temple, c'est-à-dire le sanctuaire intérieur de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en eux. Ce passage, je crois qu'il est un avertissement sévère à tous ceux qui entravent et détournent la vérité. Matthieu, chapitre 18, versets 6 et 7. Si on veut bien le lire. Matthieu 18, 6. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai pris cette note.
Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable.
Ouais. Malheur à tous ceux qui détournent les gens du vrai fondement. C'est à devant Dieu qu'ils rendront des comptes. Il s'était apparemment introduit dans l'église de Corinthe des docteurs dont l'enseignement entraînait davantage au péché qu'à la sanctification. C'est un avertissement pour chacun de nous. C'est un avertissement pour chaque église locale qui pourrait entacher l'évangile. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, nous dit la fin du verset 17. Paul, ici, rappelle encore une fois que l'évangile authentique ne fonctionne pas comme la sagesse du monde, comme la sagesse humaine. La puissance de l'évangile ne consiste pas, en dernier ressort, dans la pertinence du discours qui en témoigne, mais dans l'amour de celui qui en est l'origine. Romains, chapitre 1, versets 6 et 7, je propose de lire aussi. Romains, chapitre 1, versets 6 et 7.
Parmi lesquels, vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
L'Évangile, puissance de Dieu, nous a tout donné en Jésus-Christ. Ne mettons pas notre gloire dans l'homme, même si c'est un homme ou une femme, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Paul, l'apôtre Paul, ne s'est jamais élevé, n'a jamais fait sa propre publicité. C'est ce que veut dire ce verset 22 du chapitre 3 de Corinthiens. Paul n'a jamais essayé, par des discours, d'enjoliver l'évangile, de vouloir donner un coup de pouce à l'évangile, d'essayer de faire mieux de ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Parfois, nous voulons tellement voir la personne venir au Seigneur que nous arrondissons certains passages de l'Écriture, comme si que la parole de Dieu ne se suffisait pas. Dans certains discours que nous pouvons avoir, on veut enjoliver, mais parce qu'il nous semble que, tiens, bon, si je dirais ça, ça serait mieux que ce que nous dit la Bible. N'essayons pas. La parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, ça sera notre, peut-être notre sujet, de, nous parlons beaucoup de l'évangile de prospérité. Comme si l'évangile ne se suffisait pas à elle-même. Pourtant, à la fin du livre sacré, c'est-à-dire de la Bible, il est dit dans l'Apocalypse, qu'il n'y ait rien, qu'on rajoute rien, qu'on n'enlève rien de ce qui est écrit de ce livre. Et parfois, nous voulons tellement amener les personnes au salut que je crois que parfois nous nous trompons, nous nous séduisons nous-mêmes par nos beaux discours, mais nous devons simplement proclamer la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'à l'Église, ici, on aime bien dire, et on l'a déjà répété, ce qui compte, c'est la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. C'est là-dessus que nous devons nous appuyer. Car c'est Dieu qui fait croître. Nous, nous faisons que semer, mais semer comme Dieu le veut. Verset 22, « Tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Oui, donc je ne me laisserai pas emprisonner ou asservir de quoi que ce soit. Vous connaissez ce passage, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, ce soir, j'ai envie de dire, eh bien, oui, tout est permis, mais tout ne va pas nous édifier. Seule la parole de Dieu est la vérité. Alors, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et donc c'est bien le seul fondement, hein, c'est Jésus-Christ. Voilà, je vois, il y a encore une minute peut-être, deux. Donc voilà, moi j'ai terminé, mais peut-être qu'en deux minutes, comme on sait très bien que des fois on est obligé de tenir l'heure, parce qu'il y a des autres personnes qui ont des contraintes, si quelqu'un voudrait rajouter par rapport à ce qui a été dit, nous donner une exhortation, n'hésitez pas, nous avons deux minutes. Est-ce que quelqu'un veut rajouter, ou peut-être j'ai dit quelque chose, vous n'avez peut-être pas saisi. Si vous avez compris, c'est gloire à Dieu. Oui.
Quand tu disais la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, la parole de Dieu. Je suis vraiment d'accord avec toi et je voulais donner un autre verset pour abonder dans ton sens. Parce que juste avant que tu commences, je parlais avec notre frère qui est là. Ils ont parlé de nos expériences avec chasser les démons, ou alors à qui on m'a chassé les démons, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de confusion dans le milieu évangélique. Une confusion telle. Satan imite beaucoup Jésus, la confusion telle qu'en fait on ne peut pas discerner le vrai du faux. Je pense que c'est simplement en étudiant scrupuleusement la parole de Dieu et le passage que, je crois que tu allais même le citer tout à l'heure, mais le passage qui parle de ça, c'est dans Matthieu au chapitre 7,
je veux le lire,
verset 21. C'est là où on voit la portée de la confusion. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Donc voilà, ici, tout est chrétien, on rentre là-dedans et on se dit, mais en fait, tout est chrétien, c'est chrétien, il n'y a aucun doute. Et c'est là où on voit la confusion extraordinaire et quasiment l'impossibilité du discernement. Parce que Jésus, il leur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment y voir clair? Et on voit de Thessaloniciens aussi qu'à la fin des temps, Satan, l'Antéchrist, il fera des prodiges, par la puissance de Satan, des prodiges et des miracles, afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Ouais. Et donc, la seule possibilité de discriminer le vrai du faux, c'est l'étude rigoureuse de la parole de Dieu. Et le problème, c'est que quand il y en a beaucoup qui utilisent le nom de Jésus, mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Est-ce qu'ils dépouillent les chrétiens par des abus de pouvoir? Ils prennent l'argent des chrétiens? Est-ce qu'ils prêchent un salut par les œuvres et non pas par la grâce seule? Et donc oui, on voit que c'est soi-disant au nom de Jésus, mais c'est, en fait c'est satanique, parce que c'est pour priver les gens du salut par la foi seule en Jésus-Christ. Donc là, c'est important de faire cette étude-là, parce que 1 Corinthiens traite de ça, pour qu'on puisse savoir quel est le vrai du faux, parce que comme tu disais, sur Internet, on voit des choses époustouflantes.
Ouais. C'est vrai. En tout cas, merci pour ce passage, effectivement, et c'est un peu le résumé. Parfait. C'est celles qui feront la volonté de mon Père.
Et aujourd'hui, je termine avec ça. Ça m'a peut-être parlé la semaine dernière, mais dans ces 1 Corinthiens 1, il y a écrit les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Je trouve ça extraordinaire parce qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose. En fait, aujourd'hui on voit l'écueil de ceux qui veulent du fantastique, de l'extraordinaire, du miraculeux, du sensationnel. On voit aussi l'écueil de l'intellectualisme dans beaucoup d'églises aussi. Et Paul, en fait, nous, c'est ni ça, ni ça, nous, on prêche Christ. La parole de Dieu, avec la parole de Dieu, toute la parole de Dieu.
Tout à fait. Et c'est un exemple pour nous, pour notre Église, hein, prêchons Jésus-Christ. Seul fondement, Jésus-Christ. Voilà, l'étude se termine. On va peut-être terminer par la prière.